Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interview tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute.
Bonjour Christina et ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui.
Bonjour Delphine, merci de me recevoir sur ton super podcast. Je suis ravie aussi de te rejoindre pour parler d'innovation et tous les sujets qui vont nous tenir en haleine en 2023.
Exactement. Est-ce que je peux te demander, Christina, de te présenter brièvement à nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Alors, je suis Christina Lazatian, la présidente de Imagi. Donc, c'est un studio d'innovation légale où on travaille sur des sujets de transformation du droit, donc des usages, des actions juridiques, des process, des documents juridiques, bien sûr, sur des enjeux de digitalisation, de conduite du changement. Et on a une équipe d'une dizaine de personnes, notamment des designers, bien sûr, 4 designers avec lesquels on travaille au quotidien sur tous les projets. Et ce qui fait que ce qui nous différencie peut-être un peu, c'est cette partie-là, parce que on a une phase recherche justement toujours sur les projets qui est assez poussée. On va bien observer les besoins, le contexte, les axes de transformation, comment on peut impliquer tout le monde, toutes les parties prenantes et effectivement ça c'est surtout bien efficace quand on a des designers et surtout des designers un peu sages comme on peut avoir. On en a un qui en fait exerce depuis qu'Internet existe, donc tout domaine il en a vu passer,
ouais.
Et c'est vrai que c'est un gros plus, ça nous aide beaucoup sur les nouveaux sujets qu'on peut avoir en droit, mais qui ne sont pas si nouveaux que ça, en fait, dans d'autres domaines.
Donc, c'est... Et alors, quelle est justement ta vision du droit et de la direction juridique de demain?
Alors, ma vision du droit, selon moi, la fonction principale du droit, c'est de fournir, en fait, une structure pour nous protéger en tant que citoyens, protéger nos libertés, et bien sûr aussi d'établir des normes, des règles de fonctionnement pour les relations, notamment sociales et économiques, ce qui va nous intéresser dans le droit, et donc notamment les contrats. Et souvent, à la faculté de droit, on nous a beaucoup parlé de cet adage « nul n'est censé ignorer la loi », qu'on connaît tous, mais qui au final est un peu une utopie, parce que effectivement, en tout cas en France, on n'a jamais vraiment fait cet effort de clarté. Le système juridique est très complexe. Les lois, les règlements, tout le système juridique, en fait, est assez difficile à comprendre et à appréhender, et notamment pour les non-juristes. Et pourtant, dans le monde, on a beaucoup d'exemples de gouvernements qui, justement, par exemple, adoptent l'approche du langage clair pour déjà la rédaction de leurs lois et règlements, comme la Nouvelle-Zélande, en Norvège, les Pays-Bas, et même certains États aux États-Unis. Donc, effectivement, pour moi, la fonction justement du droit telle qu'elle devrait être, donc claire, accessible, pour qu'on puisse justement utiliser en fait tous nos droits et connaître aussi bien nos obligations au quotidien en tant que citoyen, mais aussi dans le cadre justement des entreprises, c'est assez compliqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va avoir justement l'apparition du legal design, de nouvelles démarches pour accentuer la compréhension, pour accompagner justement dans la transformation des actions, pour les rendre plus efficaces, plus engageantes, plus user-friendly. Ben voilà, tout ce que va nous permettre justement la démarche design. Et donc, sur la direction juridique à proprement parler, direction juridique a souvent été considérée comme une activité support et un centre de coût jusqu'à il y a quelques années. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça devrait être, en tout cas, selon moi? Selon moi, ça devrait être vraiment un service qui collabore au quotidien avec notamment la direction générale et sur tous les projets qui participent, par exemple, au CODIR, Combien de fois on vient nous voir justement sur des besoins en legal design, on nous dit dans nos besoins, voilà, on aimerait que vous nous aidiez à ce que la direction juridique devienne force de vente auprès de la direction générale, qu'on devienne un acteur central du développement de l'entreprise. Et donc pour cela, forcément, il faut que la direction juridique intègre tous les enjeux de développement, d'innovation, d'expérience client dans son cahier des charges. En tant qu'objectif essentiel de fonctionnement. Et ça passe forcément par une approche business, par justement cette dynamique en fait globale d'innovation qu'on va rechercher, et donc d'aligner les différents besoins tant en termes d'entreprise, et donc d'essayer en fait d'aligner les différents besoins pour justement avoir cette posture globale et une marque une image de marque en fait qui favorise tous les enjeux de transparence, d'éthique, d'expérience client qu'on peut rechercher aujourd'hui.
Et je pense que les cabinets d'avocats, ils évoluent aussi vite que les directions juridiques.
Alors, je dirais que au début, je dirais que c'est surtout les directions juridiques qui s'y sont mises en fait de façon plutôt sérieuse parce que elles ont commencé justement à s'intéresser notamment au legal tech, à intégrer en interne pour faciliter les démarches en fait juridiques au quotidien. Donc, on a intégré des outils de contract management, des outils d'automatisation qui, justement, ont permis aussi d'accompagner, en fait, donner un coup de boost à ces démarches de transformation en interne. Et puis, c'est vrai que ces deux dernières années, on constate que les cabinets d'avocats s'y sont aussi pleinement mis parce que, forcément, ils sont conscients que du coup, leurs clients, quand ils ont des clients entreprises, en fait, ont ces besoins-là. C'est assez largement manifesté dans les différentes études qu'on peut voir, notamment les directions juridiques qui indiquent assez fortement que la technologie, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel en tant que ce qu'on attend de notre conseil au quotidien. Donc, on va attendre que notre avocat, en fait, soit aussi informé sur les outils, sur des process, qui puisse aussi les intégrer en interne pour être plus productif, pour être plus efficace.
Donc, ton constat, en fait, c'est qu'ils s'y sont mis à la demande des clients et pas forcément d'eux-mêmes. Enfin...
Ce que j'ai constaté, c'est que c'est surtout, en fait, face au constat que les clients ont des nouveaux besoins. Donc, ils ont des nouveaux besoins en termes d'accompagnement, en termes de suivi client. Ils vont justement chercher autre chose de plus, en fait, une valeur ajoutée que la simple consultation juridique. Là, récemment, depuis 6 mois, on est sur un projet où on accompagne justement un cabinet d'avocats sur une digitalisation en fait de leur process et la solution qu'on peut implémenter. Et donc on a mené en fait une phase de recherche qui était très intéressante parce qu'on a pu interroger une dizaine de clients sur leurs besoins. Et donc effectivement ce qui m'avait assez marqué, c'est un directeur juridique qui me dit on en a un peu assez que les consultations, par exemple, prenons l'exemple des consultations, sont super, très complètes. Elles peuvent répondre à notre besoin en tant que direction juridique, en tant que juriste. Mais par contre, en fait, je vais perdre au moins une demi-journée, moi, ensuite, à retranscrire en fait ce document pour ensuite aller le partager auprès de ma direction générale et voir comment on va fonctionner. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, si auparavant c'était assez assez classique, en fait, que le langage allait être soutenu, que la structuration, la longueur des consultations juridiques allait être longue, et que le juriste était aussi son rôle peut-être de reprendre ce qu'on lui transmettait pour pouvoir en fait le retranscrire dans son environnement. Aujourd'hui, non, on s'attend que l'avocat soit aussi compréhensif de l'environnement, de ce qui se passe, et que en fait, on puisse directement retranscrire un document et le partager en fait avec des opérationnels, la direction générale, ou qu'on ait un double service, qu'on ait cette consultation juridique, par exemple, qui soit complète, qui puisse effectivement remplir les besoins de responsabilité. C'est souvent la raison que les avocats vont avancer pour dire que ils mettent des pavés dans leurs consultations. Et donc, avoir un deuxième document, par exemple, qui va justement être quelque chose d'opérationnel, de pragmatique, et qui va être directement transmis, par exemple, à la direction générale. Donc, voilà, ça, c'est effectivement, en fait, pour moi, c'est surtout face aux besoins constatés. Et puis, bien sûr, on est sur un environnement concurrentiel de plus en plus. Ils se sont rendus compte aussi avec les legal tech, hein, qui ont pris beaucoup de parts de marché. Et puis, quand on voit aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, je pense que tu as pu tester et te rendre compte à quel point c'est révolutionnaire et en fait, ça transforme la pratique. Et on se dit, si un outil comme ça répond à des questions qu'on pourrait en fait, poser à notre avocat, ça va être quoi aujourd'hui la valeur ajoutée du coup d'un avocat?
On va parler un peu de Imagine. Est-ce que tu peux nous dire un peu quand tu l'as créé avec Carole, je crois, et quel service vous offrez?
Imagine existe depuis à peu près 4 ans. On travaille du coup au quotidien avec Carole, qui est mon associée, et comme je disais, avec une équipe de designers, développeurs. Nos clients sont principalement des directions juridiques, des directions innovation marketing également, parce que ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises de travailler en fait avec la direction générale et ensuite on monte un groupe de travail et donc la direction juridique est bien sûr intégrée dedans, mais la chefferie de projet se passe plutôt avec les directions innovation marketing. On travaille aussi avec les cabinets d'avocats et les cabinets d'expertise comptable. Forcément, on va avoir des offres de prestations d'accompagnement et des offres de formation et de coaching qui vont en fait dépendre du besoin manifesté justement. Donc, en fait, notre approche ne sera pas la même sur une demande de digitalisation de process ou un redesign de contrat ou de conditions générales, par exemple, parce que on va analyser justement la demande. On va essayer d'observer en fait la bonne méthode à adopter, les différentes justement stratégies qu'on peut mener pour arriver un impact en fait qui puisse être positif sur un long terme. Et parfois, ça va nous arriver que la demande initiale du client n'est pas forcément celle qui va répondre justement à la problématique qu'ils vont nous poser. Donc nous, on va en fait essayer de reproblématiser avec eux. Et leur proposer en fait un plan d'action qui leur permettra justement d'atteindre leurs objectifs. Donc notre fil rouge, c'est toujours l'impact qu'on peut générer derrière et la mesure des KPI. On va travailler avec les méthodes agiles, impliquer les différentes parties prenantes justement essayer de véhiculer et de créer cette expérience utilisateur positive, que ce soit en interne ou en externe. En fonction des enjeux sur lesquels on va travailler.
Et alors, jusqu'où vous allez dans l'accompagnement de projet, justement?
Alors, ça va être très dépendant des projets. Donc, sur des prestations, par exemple, on va commencer, par exemple, je donne l'exemple d'un contrat. On va pouvoir accompagner, justement, nous, sur le redesign complet du contrat. Donc, en fait, on va commencer par identifier, justement, les besoins de transformation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, que c'est pas lu, qu'on a beaucoup trop d'appels avec le service client, est-ce qu'il y a des difficultés aussi dans la collaboration entre les différents services qui vont avoir justement un lien avec ce document contractuel. On va travailler donc avec eux en fait pour déployer la démarche design jusqu'à son implémentation. Et après, on peut accompagner à l'implémentation. Donc là, par exemple, on a travaillé sur un contrat santé où le contrat est prêt depuis 6 mois. Et là, depuis 6 mois, en fait, on travaille avec un groupe projet sur son implémentation. Donc, on réfléchit comment l'intégrer en fait dans l'environnement technique. Parce que du coup, étant donné que c'est des milliers de contrats générés tous les jours, en fait, ils ont un outil d'automatisation. Et donc, l'idée, c'est de se demander quels sont en fait les niveaux, par où on commence pour l'implémenter. Si on doit automatiser, qu'est-ce qu'on doit faire et comment en fait on va pouvoir automatiser. Et puis, ce qu'on fait aussi dans ce cadre, c'est on peut proposer une mission d'appropriation et en quelque sorte de transfert en fait de compétences où après, l'équipe projet avec laquelle on a travaillé prenne en main en fait un autre projet, un autre contrat par exemple. Et nous, en coach, on les accompagne justement à intégrer cette nouvelle méthode en interne. Donc, on est d'abord, forcément, c'est nous qui sommes aux commandes au début pour délivrer cette première ce premier projet pilote. Et ensuite, on peut leur proposer justement d'inverser, donc de leur passer les commandes. Et nous, on est en fait en coach pour les accompagner, pour ensuite avoir un guide de méthodo en fait, qui permet justement d'être leur nouvelle méthode, nouvel usage de production dans documents contractuels, par exemple.
Et dans ces cas-là, vous êtes, j'imagine, dans l'entreprise avec les équipes, vous passez du temps avec eux et vous êtes là à temps plein ou vous êtes là, vous prévoyez un planning ou comment ça se passe?
En fait, on fixe une roadmap et en fait des réunions hebdomadaires qu'on va fixer toutes les semaines, toutes les deux semaines, en fonction des objectifs qu'on va avoir sur le projet. Et donc, on fixe en fait une roadmap avec les différentes étapes. Donc là, par exemple, sur ce mois-là, vous allez avoir la partie entretien utilisateur avec votre base client. Donc, vous allez recruter des clients, par exemple, pour les interroger et leur demander... c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs points de frustration. Et donc, du coup, en fait, on fixe vraiment des paliers. Les paliers sont clairs et déterminés du début à la fin. Comme ça aussi, ils ont en fait une vision claire et précise de leur calendrier, de leur bonne passante et du temps qu'ils doivent consacrer. C'est très important parce que dans les entreprises, en fait, on a souvent beaucoup de projets. Et justement, pour en fait permettre d'embarquer toutes les équipes de façon efficace, il faut que en fait, le fonctionnement, le process soit clair dès le début et qu'ils puissent justement voir que c'est quelque chose de concret qui va voir le jour et que ce n'est pas un énième projet qui va ensuite être abandonné ou mis de côté.
Oui, donc vous faites vraiment là aussi de la gestion de projet. Et du coup, est-ce que ça vous est arrivé, j'imagine, que les équipes ne soient pas forcément impliquées, oui, mais qu'il y ait des dérapages de délai parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce que... comment vous gérez ça?
En fait, c'est pour ça que c'est très important la partie cadrage de projet. Et ce qu'on fait dans cette partie, justement, c'est qu'on intègre dès le début toute l'équipe projet, donc toutes les parties prenantes qui vont intervenir. On va avoir un chef de projet interlocuteur unique avec lequel on va vraiment échanger au quotidien. Mais l'équipe projet est embarquée dès le cadrage, en fait, dès le kick-off. Pour leur montrer comment on va fonctionner. Donc, dès le début, en fait, ils ont une vision précise du temps qu'ils vont devoir consacrer et de leur disponibilité.
Oui, donc ils doivent s'impliquer et s'engager au début, voilà.
C'est ça.
Les prémices, quoi.
C'est ça. Et puis après, ce qui aide aussi dans ces cas-là, c'est d'avoir la direction, justement, qui est impliquée, qui est force de proposition et qui en fait leur indique que c'est un projet important, que c'est un projet qui peut justement transformer les choses pour l'entreprise et que ça sera c'est vraiment un projet qui peut être pilote et essayer de créer aussi en fait une dynamique d'équipe pour la suite. Donc ça peut aussi aider en fait à avoir un peu plus d'implication effectivement. C'est vrai que sur ce projet-là qu'on a mené, au début, c'était très compliqué. Quand j'ai fait ma première réunion, en fait, j'ai toute l'équipe qui m'a dit en fait, ça fait 30 ans que les enjeux de lisibilité des contrats santé sont à l'ordre du jour. Ça fait 30 ans qu'on essaye de faire des choses. Qu'est-ce qui va en fait changer cette fois? On n'a pas envie d'avoir de nouveau.
Vous n'avez pas du tout la pression, quoi.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va changer cette fois? Alors, du coup, ce qui était... assez efficace aussi, c'est qu'en fait, j'avais monté un binôme avec une personne, une consultante qui, en fait, avait travaillé dans les assurances depuis 30 ans et qui ensuite a monté une start-up à côté sur d'autres sujets, mais qui, en fait, accompagne beaucoup les entreprises encore aujourd'hui et notamment les directions générales. Et donc, en fait, on a réussi à créer un beau binôme d'un partage, en fait, d'expériences et de compétences qui a fait que... pas à pas, on les a rassurés, on leur a dit vraiment là, on va prendre les choses dans l'ordre, on va essayer de ne pas en fait se focaliser sur les contraintes parce que ce qui peut être en fait un frein dans ce type de projet où on va vraiment transformer les choses, c'est que on va se concentrer sur les contraintes. Donc, par exemple, de se dire on est très très limité par nos outils techniques qui font que nous avait dit on a écrit ce terme-là en trois mots en le réduisant et ce qui a fait qu'il était incompréhensible parce qu'on n'a pas de place avec notre logiciel pour l'écrire autrement. Donc, à partir de là, c'est vrai que si on réfléchit dans ce sens, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on leur a dit, en fait, non, la direction nous a laissé vraiment libre cours à notre imagination. On peut vraiment aller aussi loin qu'on le veut. Et l'aspect technique, les contraintes, les difficultés, on les verra dans un deuxième temps. Et on verra, en fait, comment on peut les régler. Ouais. Et donc, quand on a changé, en fait, un peu ce mode de fonctionnement et qu'on leur a dit « Ok, maintenant, on va essayer de faire du mieux que possible. On va essayer d'être créatif et surtout de s'adapter à ce que, en fait, vos clients partagent et ce qui ne leur va pas. » Et donc, c'est vrai que ça a tout changé à partir de là parce que, du coup, on a fait étape par étape. On a pris en compte aussi leurs réticences et leurs difficultés, le fait qu'ils nous partageaient, qu'ils avaient déjà essayé à plusieurs reprises, qu'ils n'avaient pas envie de perdre du temps. Et c'est là que le rôle aussi de chef de projet dans l'entreprise est très important et qu'il faut choisir un chef de projet qui va avoir en fait une vision globale et qui a l'habitude de travailler un peu avec les différents services d'une entreprise, donc les juristes, les techs, voilà, qui a l'habitude au quotidien en fait de travailler avec tout le monde parce que du coup, elle va avoir cette personne un rôle de fédérateur et elle va pouvoir contribuer en fait à la réussite du projet. Donc il y a beaucoup de petits paramètres qui font que
c'est ça qui va faire la réussite du projet, mais tu as raison. Ah, oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de digitalisation de process avec le legal design, ce que vous avez fait vous par exemple?
Oui, bien sûr. Alors la digitalisation de process, on peut travailler sur différentes choses. Bien sûr, on peut travailler sur les interfaces utilisateurs qu'on va créer, donc des applications, des sites web qu'on va créer pour justement transformer un usage plutôt interactif qui va aider justement à faciliter les actions, les rendre plus efficaces, plus engageantes. On peut aussi intégrer la gamification, l'automatisation, du contract management, des chatbots, des assistants virtuels. Donc, la digitalisation, je dirais qu'on peut digitaliser n'importe quel process. Ce qui est important, c'est justement de se demander c'est quoi en fait les premiers process qu'il est essentiel de digitaliser. Parce que en fait, c'est les premiers points frustrants justement de nos utilisateurs ou de nos clients. Moi, j'ai un exemple justement sur ce sujet qui intègre un peu tous les process qu'on peut digitaliser, qui est assez intéressant parce que ça touche en fait le suivi de la relation client, qui est un défi aujourd'hui, notamment pour les cabinets d'avocats. Et en fait, on a accompagné justement sur ce sujet un cabinet qui en fait avait envie de digitaliser des process et qui était venu nous voir en disant, on sent que nos clients ont besoin justement d'une relation plus digitale sur certains sujets, qu'on soit plus efficace sur certains points. Et donc, on aimerait intégrer un outil de contract management et un chatbot pour justement répondre à ce besoin. Et donc, maintenant, on leur a dit, OK, mais d'où vient justement ce besoin? D'où, en fait, vous avez identifié ce besoin-là plutôt qu'un autre en termes de digitalisation? Donc, c'est très important sur ce type de projet de ne pas partir d'idéaux généraux, de concepts, parce qu'on sait que le contract management, ça peut aider à la gestion, à la production collaborative, notamment des contrats, que les chatbots peuvent permettre de répondre à des premières questions. Mais c'est très important justement de ne pas partir en fait de ces concepts et idées générales, et de se dire mes clients à moi, ma cible à moi en fait que j'ai envie de viser, c'est quoi ces besoins? Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a travaillé. On leur a montré, justement, un plan d'action qui permettrait de bien identifier les besoins et de ne pas partir, justement, dans une solution tech, ensuite, qui serait développée. Surtout que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissements financiers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, justement, avec eux, avec la forme du design sprint. Au départ, on a fait des entretiens clients, on a interrogé justement des clients sur leurs besoins, qui étaient en fait dans la cible, qui visaient à toucher justement avec un outil comme tel qui sortirait. On a interrogé aussi l'interne pour savoir c'est quoi eux aussi leur ressenti, c'est quoi justement les difficultés qu'ils peuvent avoir et qu'est-ce qu'ils en pensent en fait de façon générale, parce que c'est très important de ne pas oublier sur des projets qu'on va créer notamment pour un client externe, l'interne, parce qu'en fait, c'est l'interne qui va faire en sorte que ce projet, cet outil fonctionne ensuite dans la relation avec le client. Parce que si moi, on a de la réticence et des blocages en interne, on peut créer le meilleur outil du monde, la meilleure app du monde qui révolutionne justement peut-être la relation client. Mais si ce n'est pas accepté en interne, bah, ça ne fonctionnera pas.
Oui, c'est ça. Alors, tu as parlé de conduite du changement. Oui. Est-ce que tu peux me dire quelles sont pour toi les grandes tendances dans les directions juridiques dans leur conduite du changement? Qu'est-ce que tu pressens, toi, pour 2023, 2024?
Moi, effectivement, la transformation numérique, on va dire, avec l'intégration des techs pour plus de performance, je pense que ça, voilà, ça va être la suite. Ça a déjà pas mal commencé pour une partie des directions juridiques, mais je pense que c'est quelque chose qui va s'accélérer et en fait continuer à se mettre en place sur les prochaines années. Je pense aussi qu'effectivement, et c'est quelque chose qu'on constate au quotidien dans les demandes, cette approche plus stratégique et proactive de la direction juridique, ça va être aussi quelque chose d'important pour justement ben, prendre en compte en fait, les questions juridiques et les risques en lien avec les enjeux de la société, être un acteur plus stratégique, voilà, s'intéresser aux enjeux d'innovation, de transformation des usages et aussi ben, réfléchir de façon en fait, globale à des enjeux d'éthique, de transparence, d'éco-conception, d'inclusion numérique. Donc, ça, des sujets qu'on traite beaucoup, de plus en plus, notamment en lien justement avec les outils tech qu'on peut intégrer. Ben, nous, on a déjà eu beaucoup de demandes, et là, c'est plutôt des services publics, en fait, qui en fait, sont très friands, notamment de s'intéresser aux nouveaux modes de conception, donc d'éco-conception, et ils nous demandent justement de travailler sur ces sujets. Donc, c'est ce qu'on fait aussi au quotidien sur les différents projets. On va avoir notamment des outils digitaux. Et puis la troisième tendance, peut-être la collaboration des équipes au sein de la direction juridique, apprendre à travailler avec les autres, tant en interne, donc les autres juristes, mais aussi créer des process efficaces à l'échelle de l'entreprise avec les autres parties prenantes, donc les opérationnels, la direction générale, pour en fait avoir plus de liens et mieux collaborer, mieux produire au quotidien. Je pense que c'est extrêmement nécessaire de créer en fait, des process, pas que en interne, à l'échelle justement de l'équipe avec laquelle on travaille, mais avec toutes les autres équipes également.
Est-ce que tu peux nous donner, pour toi, les trois caractéristiques du secteur, cette fois du legal design précisément?
Avant de donner les trois caractéristiques, j'ai effectivement pas eu le temps de dire ce qu'est le legal design pour nous et comment on travaille en fait avec les différentes méthodes au quotidien. Pour nous, en fait, dans cette démarche hein, d'innovation, on va pouvoir utiliser le legal design. Le legal design va en fait être axé sur la partie communication, sur la partie rédaction et le contenu juridique pour que ce soit un contenu juridique centré, utilisateur, accessible, clair, engageant. À côté de ça, pour nous, en fait, c'est très important pour avoir une démarche complète d'innovation et justement à impact, de prendre en compte en fait toutes les autres méthodes qu'on peut utiliser, donc les méthodes agiles, j'ai parlé effectivement du design sprint, le design thinking, l'UX writing, où on va effectivement en fait se focaliser sur l'expérience utilisateur à travers les mots. Donc c'est toutes ces méthodes qu'on utilise et qui font qu'en fait une démarche va être complète et efficace à la fin. Sur le legal design à proprement parler, pour moi, les trois caractéristiques, ben, la première, la plus essentielle, c'est le centrage utilisateur, se concentrer en fait sur l'utilisateur final pour qui on produit au quotidien, la personne qui va toucher de la main en fait le produit, le service, l'exploiter, devoir l'utiliser dans son quotidien. Donc ça peut être ben, l'usager d'un service public, l'opérationnel dans l'entreprise, le client, pour les cabinets d'avocats. Donc en fait, la personne qui va réellement profiter de nos produits et services, il faut qu'on soit réellement empathique vers cet utilisateur et qu'on ne parte pas en fait, d'idées reçues et qu'on les valide au quotidien, à chaque stade en fait, de réflexion qu'on va avoir. Ce qui est compliqué, c'est mettre le pied dedans. Combien de fois on nous a dit, ben, oui, mais le client, on ne veut pas le déranger, il n'a pas le temps, il va se demander, mais pourquoi on lui pose ces questions ouais. Et en fait, non, ils sont très heureux. À chaque fois, voilà, on a essayé de pousser, parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ne travaille pas autrement. Donc, c'est soit comme ça, soit on ne veut pas les accompagner, parce que pour nous, cette partie, en fait, sans cette partie, ben, on fait du maquillage, quoi. Enfin, c'est le côté, plutôt visuel où on va pas chercher de l'impact et de faire de la réelle transformation, du réel changement. Ouais. Donc du coup on les pousse un peu et quand ils le font, bah, après ils sont très heureux, ils nous disent bah, c'est con qu'on recommence quoi, parce qu'ils se rendent compte réellement ça change les choses. Et en fait quand on compare justement une approche où on va pas avoir la phase recherche de centrage et où on en a une, en fait c'est des solutions complètement différentes. C'est pour ça, bah, du coup, j'en viens à la deuxième caractéristique, c'est l'innovation. Parce que du coup, si on a cette première caractéristique du centrage utilisateur, de l'empathie, qu'on applique réellement, bah, c'est là qu'on peut créer de l'innovation, parce que nos solutions vont réellement être adaptées en fait, pour résoudre des réels défis juridiques modernes qu'on va avoir. Pour sortir voilà, des sentiers battus, avoir une ouverture d'esprit et... Et puis, bah, peut-être la troisième caractéristique qui est en fait un indispensable, je dirais, pour mener cette démarche, c'est la collaboration, l'approche multidisciplinaire. Ça touche autant l'équipe qu'on va constituer. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait que sur n'importe quel projet, il ne faut pas en fait s'entourer uniquement de juristes et de ceux qu'on connaît, avec qui on produit au quotidien, mais il faut vraiment intégrer les autres parties prenantes, des commerciaux, la direction achat, le marketing, en fait, toutes les personnes avec qui on évolue au quotidien. C'est très important de les impliquer, même si ce n'est pas... au même niveau que les juristes, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou voilà, en fonction des caractéristiques du projet qu'on va monter, c'est important en fait de les consulter ou de les impliquer à certaines étapes du projet. Selon nous, c'est vraiment ça qui va faire la réussite du projet, de travailler tant avec les parties prenantes internes, et aussi de ne pas oublier que parfois, ben, il est indispensable en fait de rajouter des compétences pour travailler en fait avec des personnes qui ont justement l'habitude de résoudre des problèmes d'usage au quotidien, comme les développeurs, les designers, ben, surtout les designers, les ingénieurs. Enfin, ça dépendra vraiment du sujet qu'on traite et l'environnement dans lequel on est, mais il ne faut pas voilà, se dire qu'on peut tout faire de notre côté. Parfois, on a besoin
de collaborer toujours avec les autres. Quoi.
La collaboration, effectivement, c'est, je l'ai vraiment noté comme ça, collaboration, point. Troisième caractéristique, et je pense que c'est vraiment déterminant.
Bah, écoute, j'ai été ravie que tu viennes nous expliquer tous tes projets, Imagine, et comment tu travailles au quotidien avec ton équipe. Ça m'a fait très plaisir, et puis je te dis à très bientôt, Christina.
Bah, merci beaucoup, j'ai été également ravie.
Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast, rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout Droit Tout Simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine !